Bonsoir à tous, les chiffres sont là, il n'y a jamais eu autant de drogues en circulation et disponibles. La lutte est-elle efficace? Faut-il s'acharner? Faut-il changer de politique? Et finalement, n'a-t-on le choix qu'entre prévention et répression? Si je vous dis salle de shoot, dépénalisation, légalisation, ces mots font débat. Ça tombe bien, c'est le nôtre ce soir au Téléphone Sonne. Vos questions par mail sur la page du Téléphone Sonne sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Telson. Et bien sûr, au 01 45 24 7000.
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Faut-il changer de politique anti-drogue en France? La première question, elle est signée Étienne. Bonsoir, bienvenue Étienne.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi je m'interroge sur les raisons pour lesquelles on a très peu entendu parler de la préconisation de l'OMS en 2014, qui proposait d'arrêter le tout répressif dans la lutte contre la drogue, dans la mesure où ça se révèle inefficace pratiquement dans tous les pays du monde, et que le trafic de drogue pose des problèmes un peu partout. Hein. Chez nous, hein, dans les quartiers où on en vend, mais ça, un pays comme le Mexique est complètement gangréné par le trafic de drogue. Il n'y a plus de démocratie au Mexique, et progressivement, un certain nombre de pays d'Afrique prennent la même direction, parce que l'Afrique sert de plaque tournante à l'alimentation de l'Europe. Hein. Alors qu'il y aurait des solutions qui consisteraient tout simplement à vendre les drogues en pharmacie et chez les buralistes, que les consommateurs aient des cartes à puce, qui serait lié à des visites médicales régulières auprès de médecins qui les accompagneraient, et la carte à puce pourrait être rechargée lors des visites avec le médecin, ce qui fait que s'il n'y a pas de visite, eh bien, il n'y a pas d'autorisation de consommation. Et les médecins seraient là pour rappeler les risques de la consommation, et puis bien sûr accompagner les consommateurs dans le cadre où ils voudraient aller vers un sevrage.
Alors Étienne, pour vous répondre, autour de la table, les invités du Téléphone Sonne ce soir, Irina Obradovic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, l'OFDT, chargée d'éclairer les pouvoirs publics, les professionnels et le grand public sur le phénomène des drogues et des addictions. Amine Benyamina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre au département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, c'est dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Bonsoir. Et Thomas Dussouchet, pharmacien et coordinateur de l'association Gaïa, qui gère la salle de consommation de drogue à moindre risque à Paris depuis octobre dernier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Étienne parle de l'évolution de la politique sur les drogues prônée par l'OMS. Irina Obradovic de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'effectivement, la vente de cannabis en pharmacie, c'est quelque chose qui a été expérimenté en Uruguay assez récemment, depuis fin 2013. Donc, c'est effectivement le premier pays au monde qui a décidé de légaliser le marché du cannabis récréatif et qui met en place cette vente en pharmacie, alors qui est entrée en vigueur un peu plus tard que prévu, en juillet d'ailleurs. Donc, on n'a pas encore d'évaluation des retombées.
Mais est-ce c'est prôné par l'Organisation mondiale de la santé?
Alors, ce qui est prôné par l'Organisation mondiale de la santé, c'est effectivement d'avoir une politique de réduction des risques et de cibler les efforts sur la prévention plutôt que sur la répression, avec l'idée que la guerre à la drogue n'a pas forcément donné des résultats probants.
Alors, est-ce qu'il faut légaliser la majorité des drogues? Amine Benyamina, vous êtes donc spécialiste de l'addictologie, on va dire, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première question qui nous met tout de suite dans le débat?
C'est une question importante, contemporaine, utile, et qui montre que depuis à peu près 40 ans, notamment lorsqu'on a lancé la grande guerre à la drogue dans les années 70, suite à l'épidémie d'overdose aux États-Unis puis en France, on a mis en place une politique répressive importante avec beaucoup de moyens. On se rend compte des décennies après que ça a montré ses limites et qu'une bonne politique est une politique qui est à la fois une politique de prévention, de promotion de la santé et une politique aussi qui a un versant qui est un versant naturel et normal, qui est un versant policier ou répressif, mettons les mots que l'on veut. Ce qui est assez gênant dans le cadre légal international, un peu moins maintenant, c'est qu'on confond à la fois dans les questions de drogue les consommateurs, qu'on criminalise, qui sont des patients ou autres, et les grands trafiquants. Il y a une confusion très claire, et très clairement la répression, dans l'esprit des uns et des autres, c'est que la répression s'abat à la fois sur les trafiquants, grands ou petits, et sur les consommateurs. Et qui est clairement une politique intelligente que l'on prône, c'est une politique qui est dans la sensibilité, la subtilité de la manière avec laquelle il faut la mener à la fois sur les consommateurs, les personnes souffrantes, ou alors respecter même les récréatifs, et mener une vraie politique internationale qu'on pourrait appeler répressive ou bien de prévention, qui est une politique qui probablement nécessiterait d'être au moins expérimentée.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on lutte plus contre les consommateurs ?
Ça dépend de quel horizon, de quelle drogue et de quel pays. On a quand même clairement... En France, c'est une politique qui semble être équilibrée, mais qui reste inefficace. On verra tout à l'heure si c'est une politique qui est efficace. On n'aurait pas, comme vous l'avez annoncé, une disponibilité, une circulation aussi importante des drogues. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'une précocité du premier contact. De plus en plus, on a affaire des jeunes qui consomment des drogues et qui recyclent des anciennes drogues en étant très jeunes. Alors, ça pose question.
On va parler des jeunes et on va parler de la qualité peut-être de ces drogues qui n'ont jamais été autant disponibles, avec une question au 01 45 24 7000 signé Loïc. Bonsoir Loïc, bienvenue.
Oui, bonsoir, de prendre mes trois questions. Il y a trois questions. Donc la qualité des substances sur le cannabis, je vais axer mes questions sur le cannabis. Est-ce qu'il y a des études qui sont réalisées sur la qualité de la résine? Personnellement, je sais qu'on peut retrouver dedans paraffine, pneus, plastique, voire d'autres substances qui sont beaucoup plus dangereuses que le cannabis en lui-même. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, quand on voit le nombre de consommateurs qu'il existe en France de cannabis, est-il logique de continuer ce système répressif qui, en plus, enrichit des mafias et des réseaux? Deuxième question. Troisième question, il y a toujours ce truc qui revient sur le cannabis où on dit un fumeur de cannabis, c'est dangereux pour lui, il passera à autre chose, à des drogues plus dures. Alors, est-ce qu'un alcoolique va forcément avoir pris une première bière et c'est pour ça qu'il est alcoolique? Est-ce que quelqu'un qui apprécie la bière va tout le temps boire du Calvados? Voilà mes trois questions.
Alors, qui veut répondre sur la qualité de la résine et du cannabis? Amine Benyamina, psychiatre au département psychiatrie et éthologie à l'hôpital Paul Brousse.
Merci, les réponses sont assez simples. Il y a la qualité intrinsèque du cannabis lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Et on sait depuis peu, ça fait 3-4 ans, même un peu plus, qu'il y a du bon et du mauvais cannabis. Je le dis sciemment, même si j'ai un petit côté, un brin provocateur, on sait à travers un certain nombre d'études, notamment qu'il y a des cannabinoïdes, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, cannabidiol par exemple, qui a montré des effets moins entre guillemets nocifs, je suis assez caricatural, que celui qui se consomme comme le THC. Ça, c'est ce qu'on appelle les composants intrinsèques. C'est d'ailleurs pour ça que le cannabis, c'est aussi un médicament vendu dans d'autres pays. Et à côté du cannabis lui-même, c'est-à-dire intrinsèque, il y a ce qu'on appelle les produits de coupage, dont parlait tout à l'heure notre auditeur. Et cela, évidemment, ça n'a rien à voir avec la plante elle-même, c'est toute l'alchimie organisée par les trafiquants, et là-dessus, évidemment, c'est tout le travail de l'analyse et de la police qui nous permet d'écarter ce type de produit.
Alors, sur le côté répressif, il faut mettre fin au tout répressif qui encourage les systèmes mafieux. Là, c'est peut-être l'Observatoire français des drogues et toxicomanie qui peut répondre avec vous, Ivana Obradovic.
Alors ça, en tout cas, c'est effectivement un des arguments qui a été mobilisé par les partisans d'une légalisation et aussi par ceux qui prônent une dépénalisation. C'est l'idée que couper l'herbe sous le pied des trafiquants, ça passe par le fait que l'État s'en mêle et organise le marché d'une certaine manière. Donc ça a été fait dans 8 États des États-Unis, c'est fait en Uruguay, ça sera fait bientôt au Canada. Donc c'est effectivement l'idée justement de reprendre la main sur le marché et de contrôler aussi la nature, la composition des produits qui sont en circulation.
Thomas du Souchet, de l'association Gaïa, donc, qui gère cette salle de consommation à Paris, est-ce que vous aussi vous dites qu'il faut cesser le tout répressif ? Pour les mêmes raisons qu'exposait Loïc il y a quelques instants.
Le tout répressif, oui, je pense que ce dont a parlé le docteur Yves Benyamina sur la politique, ce que les Suisses appellent la politique des quatre piliers avec prévention, réduction des risques, soins et répression, et quatre piliers articulés, c'est la politique que nous on prône. On ne peut pas faire de politique des drogues sans un volet répressif, mais il montre ses limites et la réduction des risques et des dommages chez les usagers de drogue. est un élément essentiel. Ouais.
Alors Loïc, au 01 45 24 7000, nous disait il y a quelques instants, pour sa troisième question, voilà, il faisait la comparaison avec de passer à une drogue dure. Voilà, est-ce qu'un consommateur de bière va passer au Calvados?
C'est ce qu'on appelle la théorie de l'escalade. Évidemment, cette théorie de l'escalade, tout le monde sait que c'est un doux fantasme. On a des morphotypes, on a des typologies de consommateurs qui d'emblée, lorsqu'ils consomment, vont consommer un peu de tout. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la jeunesse, puisqu'on va en parler, ils consomment rarement que du cannabis. Ils consomment du tabac, du cannabis, ils prennent de l'alcool, ils prennent des psychostimulants. Est-ce que c'est une théorie de l'escalade? Non, c'est de l'expérimentation particulière, avec un type particulier.
Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on consomme par rapport à son âge, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle?
À son époque, son âge, son sexe, c'est le milieu dans lequel on vit. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose cette question, il y a toujours en arrière-pensée l'expérimentation de l'héroïne. Mmh. C'est que parfois, vous avez affaire à des héroïnomanes stabilisés, qui sont moins dangereux, moins exposés qu'à des consommateurs de cannabis jeunes ou bien des consommations de psychostimulants dans des conditions lamentables. Donc cette espèce de nocivité de la vox populi des drogues doit être pondéré par la réalité sur le terrain clinique, épidémiologique de la nocivité des drogues.
Alors, on parle du cannabis, vous avez évoqué l'héroïne. Peut-être Kerwan veut, pour reprendre ce débat, resituer peut-être la définition d'une drogue. Qu'est-ce qu'une drogue? C'est Erwan qui nous écrit par mail. Qu'est-ce qu'une drogue, finalement, professeur?
Le terme drogue, c'est drug, c'est un médicament. Hein. En gros, c'est une substance psychoactive qui a pour vocation de venir interférer au niveau du cerveau et de provoquer des modifications psychocorporelles. C'est ça le principe d'une drogue. Une drogue qui devient addictive, qui entraîne une appétence, c'est qu'elle vient en quelque sorte perturber ce système au point où elle le rend dépendant avec des phénomènes de type physiologique, c'est-à-dire lorsqu'on arrête de consommer, on va avoir des signes de manque, et avec une envie de recommencer l'expérience, avec cette envie s'exprime par un désir ardent qu'on appelle le craving. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas forcément l'addiction. L'addiction, c'est ensuite tout un aménagement de l'espace personnel, environnemental, biologique, et qui fait qu'on devient addict. D'accord.
On est tous égaux face à l'addiction?
Sûrement pas. Vous pouvez être tout à fait dépendant à un produit sans être addict. Hein. Lorsque vous avez une
douleur, ça dépend de quoi?
Ça dépend de la. D'abord, ça dépend du sexe. Évidemment, on sait que les hommes et les femmes sont différents face à l'alcool. Ça dépend aussi de l'âge, du contact. Ça, c'est très important. La consommation tôt prédispose à une appétence plus tard. Ça dépend du produit lui-même. Évidemment, même si on a un abord global, il y a des spécificités liées au produit. On est bien d'accord. Et puis ça dépend dans quel milieu les choses s'organisent. Et pour finir, il y a toute la psyché autour de cela. Et puis une société dans laquelle on vit. C'est beaucoup d'éléments. Donc pour au front devenir addict, hein, il en faut des choses.
Hein. Alors l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies s'intéresse-t-il aux jeux d'argent, par exemple? Puisque Erwan, dans la suite de sa question par mail, dit quid des jeux d'argent ou du sport pour certains qui libèrent des endorphines?
Alors effectivement, l'OFDT s'y intéresse de plus en plus, puisque depuis la fin des années 90, il y a une logique des pouvoirs publics qui est de parler d'addiction de plus en plus et de regarder plutôt les comportements d'addiction ou de dépendance plutôt que le produit lui-même. Donc l'OFDT travaille sur l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions sans produit, les jeux d'argent, l'addiction au sport, l'addiction au sexe. Le périmètre des addictions s'élargit pratiquement de jour en jour. Donc effectivement, ça fait partie de notre rôle. La question de votre auditeur sur qu'est-ce qu'une drogue, elle est intéressante parce qu'elle pose la question du statut légal, qui n'est pas forcément en rapport avec les propriétés pharmacologiques des produits.
Une drogue n'est pas forcément illégale.
Voilà.
Et en France, on lutte uniquement contre les drogues illégales?
Alors en France, on lutte contre les drogues et les addictions. Les drogues licites comme les drogues illicites et également les médicaments psychotropes qui sont détournés de leur usage.
Du coup, l'alcool, le tabac sont des drogues licites?
Absolument.
Qui font plus de morts que beaucoup de drogues illicites.
Du coup?
On a 90 000 morts liés au tabac et 55 000 morts liés à l'alcool.
Ça veut dire qu'il faut changer là les politiques?
Ça veut dire par exemple qu'on a un peu avancé, et tant mieux, sur le tabac, et on est très très en retard sur l'alcool, qui est la première drogue qui tue en France.
Au 01 45 24 7000, il y a Cachou qui attend pour poser sa question. Bonsoir Cachou.
Bonsoir. Merci de prendre ma question. Du coup, je suis assez content de pouvoir parler en tant que porte-parole d'une association d'usagers, puisqu'on a très rarement l'occasion de pouvoir s'exprimer sur le sujet.
D'usagers de quoi?
De cannabis, de cannabinophiles nous sommes. C'est le collectif d'information et de recherche cannabique qui existe depuis 25 ans et qui tente d'amener le débat sur la question de la légalisation, de la régulation du chanvre récréatif. Et donc c'est pas facile de passer dans les médias et de pouvoir parler librement parce que parce qu'on ne peut pas parler de la principale raison pour laquelle on consomme des produits, c'est-à-dire pour le plaisir. Nous sommes quand même 90% des usagers à le vivre parfaitement bien s'il n'y avait pas la répression. Il y a à peu près 10% de gens qui ont un usage problématique que la prohibition de toute façon n'a jamais résolu. Et là, en l'occurrence, on est encore en train de débattre de la question de pourquoi faudrait légaliser, mais maintenant, il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure et se dire comment le faire, parce que c'est une urgence, effectivement. Et moi, je voulais revenir sur la mesure qui a été annoncée par Monsieur Collomb concernant une contraventionnalisation des usagers des drogues. C'est une mesure qui nous paraît complètement contre-productive dans la mesure où, actuellement, parmi les 150 000 personnes qui sont contrôlées, ne serait-ce que pour usage de cannabis, on dénote que ce sont principalement des jeunes issus des quartiers populaires et des minorités visibles, comme on dit poliment.
Alors Cachou, on va vous répondre parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés. Thomas Dussouchet de l'association Gaïa veut vous répondre sur notamment, je crois, la contravention.
Ouais, sur la question de la contraventionnalisation, à mon sens et au vu du public que nous on accueille, qui est un public d'usagers de drogue précaire, qui consomme essentiellement à la rue.
Qui consomme quoi d'ailleurs?
Des opiacés, un peu d'héroïne, mais beaucoup de sulfate de morphine aussi, donc un médicament dont on parlait tout à l'heure. Enfin, on parlait des médicaments détournés de leur usage, c'est un médicament détourné de son usage, mais aussi du crack, de la cocaïne, des benzodiazépines et beaucoup d'alcool.
Donc sur la mesure de
sur la contraventionnalisation, à mon sens, et le risque, c'est une augmentation de la précarisation de publics qui sont déjà largement touchés par la répression, où il y a peut-être une hésitation, un moindre déferlement de certaines personnes devant le parquet pour simple usage. Et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a des personnes qui vont être prises en flagrant délit de consommation, qui vont se retrouver avec des contraventions, qui vont accumuler les contraventions, comme c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre eux dans les transports en commun, etc. Et qui, du coup, plutôt que d'arrêter de consommer, vont accumuler les contraventions et se retrouver sous l'eau. Donc je pense qu'il y a là une fausse bonne idée.
Professeur Benyamina.
De toutes les façons, l'annonce qui a été faite par le ministre Gérard Collomb, c'était pas une ministre santé publique, c'était une mesure d'un ministre d'intérieur pour ses troupes parce qu'elles étaient submergées par le travail. On le sait très très bien. C'est plus qu'une occasion manquée et ratée. D'ailleurs, nous attendons là-dessus le gouvernement sur un plan un peu plus ambitieux qu'une annonce qui a été rapide et qui ne mérite à la limite même pas de commentaires. On est 10 fois d'accord avec ce qu'a dit cet auditeur.
Cachou, qui donc porte-parole d'une association d'usagers de cannabis, il dit qu'il est nécessaire de sortir de la prohibition, mais comment on fait? Comment fait-on? Qui se pose la question aujourd'hui là-dessus, Ivana Obradovic de l'OFDT?
Je crois que tout le monde se la pose, mais effectivement, dépénaliser, après il faut savoir ce qu'on veut faire exactement, quels sont les objectifs qui priment. Au Portugal, par exemple, il y a eu une dépénalisation de toutes les drogues il y a un peu plus de 15 ans.
Ça c'est pourquoi? C'est pour soulager les policiers qui sont sur le terrain et qui font des arrestations de consommateurs?
Alors au Portugal, c'était une situation un peu particulière, c'était surtout l'idée de lutter contre l'épidémie d'héroïne. C'était pas pour le cannabis en premier lieu, c'était ça la vraie raison. Et donc en termes de dépénalisation, on peut imaginer toutes sortes de choses. Supprimer les peines de prison, puisque c'est vrai qu'en France, on fait partie des 6 pays au sein de l'Union européenne qui considèrent encore l'usage simple de cannabis comme un délit. On peut aller un peu plus loin avec la contraventionnalisation qui permet de désengorger en partie les tribunaux et de supprimer ces peines de prison, ou aller jusqu'au stade le plus avancé, qui est celui de la légalisation, qui se pose dans un certain nombre d'États américains et aussi de plus en plus en Europe.
Professeur Benyamina.
Le sujet était bien posé. Quels sont les objectifs? Oui. On regarde l'épidémie à la française. On est le pays européen qui a le plus gros taux d'expérimentation du cannabis chez les jeunes, avec une stabilisation en haut. On est un pays dans lequel la consommation précoce est de plus en plus précoce. On a affaire aussi à une population qui ne bénéficie pas d'une vraie information organisée. Ben, faisons une loi, organisant un cadre légal. Alors je ne parle ni de dépénalisation ni de légalisation, sinon on va revenir sur les anciennes histoires. Organisant un débat autour au moins de 3 ou 4 grands objectifs.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et vous évoquez les jeunes il y a quelques instants. Nous avons une maman au 01 45 24 7000 et c'est Nadia. Bonsoir Nadia, bienvenue.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je vous remercie. J'ai écouté un petit peu la dernière personne qui a parlé, où je suis tout à fait d'accord au niveau de la prévention. Moi, mes enfants ont été touchés à un moment par l'usage du cannabis d'une façon très très tôt par rapport à ce que moi j'ai connu. J'habitais dans des quartiers extrêmement difficiles sur Nantes où ça ne circulait pas aussi facilement. Et j'ai été très très surprise de devoir seule combattre un petit peu ça, comprendre ce qu'étaient les drogues d'aujourd'hui. Il n'y a aucune prévention, très peu d'accompagnement. Les policiers font un travail répressif, ne comprennent pas que les usagers sont moi, ils étaient rendus à un stade addictif. Hein, je ne parle pas de plaisir récréatif, hein, c'est pas ça. Et ils étaient vraiment humiliés. Mon aîné, par les deals et puis après l'arrêt de son permis, etc., a été incarcéré. Et moi, j'étais très naïve, j'étais ravie qu'il soit incarcéré parce que ça le protégeait quelque part, quoi. Hein, le temps qu'il se pose. Et en fait, la prison, en tout cas, et d'Angers et celle de Vannes, Nazareth, c'était un magasin de drogue, quoi. C'est infernal. Il a eu une injonction de soins. Personne, il n'y avait pas de psychologue. Il y avait une association qui est super à Vannes, qui s'appelle Douarnenez. L'infirmier ne pouvait venir que 10 minutes tous les 15 jours. Et je suis écœurée, j'ai été écœurée de cette fausse, comment dirais-je, de cette politique, mais qui est complètement fausse et qui ne règle rien. Je veux dire, on laisse dans le quartier de Cadeau à Vannes, il y avait une circulation de produits. Le grand policier est venu dans faire une réunion de quartier. Je suis intervenue en disant comment c'est possible que le trafic se passe comme ça avec les Mercedes. Tout le monde le savait. Les enfants étaient touchés, on leur donnait 50 euros. Enfin, j'ai combattu ça, quoi, pour mes propres enfants. Hein.
Vous êtes tout à fait là dans le cœur du sujet, puisque vous dites là, clairement, il faut changer de politique anti-drogue en France. Il y a avec nous Ivana Obradovic de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui va vous répondre.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a un dispositif qui existe d'aide aux jeunes, justement, qui s'appelle les consultations jeunes consommateurs, qui est encore assez mal connu, mais qui couvre assez bien l'ensemble du territoire. Il y a à peu près 500 points de consultation dans l'ensemble de la France, métropole et outre-mer. Donc voilà, c'est un dispositif qui est insuffisamment connu, mais qui répond exactement à ce type de préoccupation, qui est une sorte de plateforme d'information, de prévention et de prise en charge, si nécessaire, pour les adolescents qui auraient véritablement un problème, pas seulement de cannabis, mais aussi de polyconsommation associée, tabac, alcool et autres produits.
Sur la page du téléphone sonne sur franceinter.fr, il y a Isabelle qui nous envoie ce mail. La surconsommation de stupéfiants, surtout chez les jeunes, n'est-elle pas le fruit d'une nouvelle culture du cannabis? Cette drogue est présente dans les films, certaines musiques en font l'apologie, à tel point qu'en faire usage peut paraître, entre guillemets, cool pour les plus jeunes. Qui veut répondre à Isabelle? Docteur Benyamina.
Ce qui est certain, c'est que ça fait très longtemps que le cannabis est un produit emblématique du phénomène de banalisation des drogues en France, chez les jeunes. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Olga, c'est bien ça, c'est qu'à un moment donné, si vous posez la question aux jeunes, est-ce que le cannabis est interdit, vous serez surpris par les réponses que vous avez. Le caractère illégal, interdit et illicite de la drogue est très souvent méconnu. On en est là. Je pense que tout le travail consiste à retisser un tout petit peu le lien dans l'esprit des jeunes pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et lorsque la dame dit qu'il y a du trafic, qu'il y a le système tel qu'il est actuellement.
Tout le monde le sait, tout le monde le voit.
Il est dépassé, inopérant.
Mais c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de légalisation ou de dépénalisation. C'est parce qu'il y a une économie parallèle. Je lisais des chiffres, le circuit du cannabis ferait travailler 200 000 personnes en France.
Mais ça, c'est un aspect social aussi.
Oui. Hein.
C'est pas complètement faux. Il y a quand même un certain nombre de sociologues qui avaient exprimé le caractère de canalisation de la contestation en banlieue par la culture et le commerce lié aux drogues. Et on ferme les yeux pour éviter qu'il ne déboule au niveau des centres-villes. Ce sont des aspects à ne pas méconnaître non plus.
On va aller au 01 45 24 7000. Jean-Marc qui, justement, là encore, se pose une question au nom des parents. Bonsoir Jean-Marc, bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir. Merci répondre à ma question. Je vous appelais pour une question toute simple. Comment des parents qui sont malheureusement touchés par le problème peuvent-ils objectiver par le biais d'une analyse de sang ou d'une analyse d'urine le fait que leurs parents, leurs enfants, leurs proches, notamment les enfants, soient consommateurs, de façon à pouvoir officiellement déjà déclarer qu'il y a consommation et mettre après une politique en place et puis vérifier si justement, dans le cadre de ce qui pourrait être une politique de décrochage ou de prise en charge, on arrive justement à atteindre un objectif. Le but étant peut-être de quantifier, mais déjà, comment peut-on faire pour arriver à officialiser scientifiquement le fait que des enfants soient consommateurs, puisque on entend souvent dans l'actualité qu'il y a des sportifs qui se font prendre par des contrôles d'urine, puisque bon, les sportifs aussi, ils sont pas exempts de consommation. Donc voilà, la question c'est celle-là.
Peut-être Thomas Dussouchet de l'association Gaïa.
Alors, peut-être plus qu'une objectivation de la consommation et une preuve scientifique, comme vous dites, de la consommation, je pense qu'il faut essayer de travailler sur le contexte et les méfaits de la consommation éventuelle et les raisons éventuelles de cette consommation et laisser un dialogue ouvert et une possibilité d'aborder la question. Parce que cette objectivation, ça a été, on a soulevé la question pour mettre en place des tests urinaires dans les lycées à une époque. Je pense que c'est pas dans l'injonction qu'on arrivera à mettre en place un dialogue et à initier quelque chose de la même manière que.
Mais en gros, ce qui veut dire, c'est que j'imagine que les parents posent la question est-ce que tu fumes des joints et que les enfants répondent évidemment que non. Parce que voilà, on peut pas toujours tout dire à ses parents et que dans certains cas c'est un petit peu compliqué et que là il aimerait peut-être avoir quelque chose de très concret pour pouvoir agir ou discuter en tout cas. Ça c'est compliqué.
C'est compliqué. Nous, on a souvent la demande avec des parents qui nous appellent en demandant est-ce que je peux avoir des tests urinaires parce que je voudrais faire un test urinaire à mon enfant. Et je pense que c'est pas ce test-là qui va ouvrir le dialogue et qui va permettre d'initier quelque chose. Par contre, arriver à avoir un dialogue ouvert sur la durée laisser un espace libre pour parler des consommations de produits, que ce soit avec la famille, alors pas forcément avec les parents, mais avec des gens de l'entourage familial et qui est ces espaces qui existent. Je pense que c'est là que c'est important et que les méfaits de la consommation chez la personne et les méfaits ressentis, un jeune puisse les adresser à quelqu'un sans se sentir jugé, sans sentir qu'il est en train de faire une connerie.
Docteur Benyamina, oui. J'imagine qu'à l'hôpital Paul Brousse, il y a des parents qui viennent vous voir justement, peut-être pour avec ce genre de cas très précis.
Ce genre de demande, mais simplement en général, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils savent que leurs enfants ou bien leurs adolescents consomment. C'est la fausse bonne idée, le kit de repérage, ça ne sert strictement à rien quand on est parent, parce qu'une fois qu'on a le résultat positif, qu'est-ce qu'on en fait? On est dans une relation de bras de fer puisqu'il m'a menti un tout petit peu avant. S'il ne m'avait pas menti, il m'aurait dit simplement qu'il consommait.
Donc c'est déjà trop tard.
Absolument, à la faveur d'un contact qui n'a jamais été rompu. On l'a dit, on l'a répété à l'époque où Mme Pécresse souhaitait le mettre en place.
Président de la région Île-de-France.
On avait dit que ce n'était pas une bonne idée. En revanche, si on arrive à mettre en place un climat dans lequel il est possible de s'exprimer, de venir confier des choses ou alors à un tiers, on parlait des CJC tout à l'heure, c'est bien mieux. Pourquoi? Parce que c'est le début d'un questionnement sur la drogue, sur la nocivité ou pas, sur le type de consommation et les risques qu'on prend.
Avant d'aller vers Lionel au 01 45 24 7000, une question pour vous, Ivana Obradovic de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Finalement, en préparant cette émission, je lisais évidemment toutes les données sur le cannabis, même sur l'alcool, le tabac, toutes ces luttes contre ces drogues-là, mais finalement, il y a aussi des tas de drogues qui apparaissent. Alors, il y a les manières de consommer ces drogues, le chemsex qui est utilisé, on utilise les drogues pour pratiquer pour avoir des relations sexuelles. Finalement, même il y a la MDMA, ecstasy, les drogues de synthèse sont sans cesse renouvelées. Est-ce que dans la politique de lutte anti-drogue, on n'aura pas toujours un coup de retard?
Ce que montrent nos chiffres, en tout cas, c'est qu'effectivement l'accessibilité de toutes les drogues progresse et que parfois il y a une résurgence sous d'autres formes. Par exemple, la MDMA, qui est relativement en vogue chez les jeunes aujourd'hui, c'est une sorte de résurgence de l'ecstasy qui était à la mode à la fin des années 90 et qui réapparaît sous une forme poudre, avec un marketing aussi assez efficace sur des comprimés qui sont plus gros, plus dosés, plus marketés, plus attractifs. Donc effectivement, cette diversification de l'offre qui est favorisée aussi par Internet, c'est un point à prendre en compte dans les pouvoirs publics et le prochain plan gouvernemental y travaillera certainement.
Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons pour votre question.
Oui, bonsoir. Alors moi je suis parent aussi à présent Mais à 45 ans, je suis un toxicomane abstinent, parce qu'on est, comme on n'est jamais ancien alcoolique, on n'est jamais ancien toxicomane, on est juste toxicomane abstinent depuis un peu plus de 10 ans. J'ai été polytoxicomane, et quand on parle de dépénalisation, de légalisation, ça me fait quand même doucement rire, parce que, enfin, je suis né en 72, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Mitterrand qui avait mis dans ses promesses de dépénaliser le cannabis. Après ça, il y a eu autant de Chirac, il y a Balladur qui avait commandé un rapport sur la dépénalisation du cannabis. Il avait contacté un médecin qui était totalement contre la dépénalisation pour être sûr de son truc. Finalement, le médecin qui avait bien fait son travail, à la fin, il s'est rendu compte que non, il aurait fallu dépénaliser le cannabis. Alors justement, je reviens sur ce qu'avait dit un de vos invités il y a quelques minutes, il ne fallait pas déséquilibrer l'économie parallèle des banlieues. À ce moment-là, on nous avait laissé entendre dire, alors qu'il avait été démontré qu'en quelques mois, on pourrait quasiment rembourser la dette de la Sécu. On a l'exemple de la Hollande, c'est pas vraiment une question, c'est plus des remarques. Mm-hmm. On a l'exemple de la Hollande qui, depuis plusieurs
années,
a dépénalisé. Et en Hollande, c'est pas les enfants hollandais qui sont toxicomanes, c'est du tourisme de toxicomanie, on le sait très bien. Les enfants hollandais, quand ils voient des toxicomanes gerber, passez-moi l'expression, vomir dans les caniveaux à 9h du matin quand ils partent à l'école, ils n'ont pas envie de s'y mettre. Chez nous, c'est tellement caché que les enfants sont attirés par le cachet, les ados sont attirés par ce qui est caché.
Donc, vous dites qu'en gros, on ferme les yeux
depuis plusieurs dizaines d'années. On a l'exemple du Colorado, plus récemment. Comme vous disait une autre de vos invités, on a l'exemple du Portugal. Mmh. Et quand je dis qu'il faudrait dépénaliser ou même légaliser, c'est pas que le cannabis, c'est vraiment toutes les drogues. Parce qu'au fond, que ce soit du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy, du MDMA, j'ai pas goûté les drogues modernes, je les connais pas. Il y a 10 ans, j'ai arrêté.
Drogues modernes.
Mais ouais, ce qui se fait maintenant, là, à présent, tout ce qui vient par Internet. Mais c'est toujours de l'argent qui est injecté, au fond, pour les guerres, pour les trafics d'armes. Moi, c'est une des choses, avec le décès d'un ami, forcément, mais c'est une des choses qui m'a aidé à arrêter. Ouais. À me dire, au fond, je fais quoi de ma thune? Toute la thune, j'aurais pu m'acheter une maison, peut-être deux, avec tout ce que j'ai laissé là-dedans. Je voudrais aussi remercier Nadia qui a témoigné tout à l'heure, comme quoi la prison, c'est vraiment pas une solution.
Oui.
La prison, mais c'est
qui nous appelait de Nantes, effectivement.
Voilà. Mm-hmm. Donc, je voudrais juste dire, en France, il y a une hypocrisie.
Hypocrisie, oui.
C'est à se demander à qui rapporte le crime.
À qui profite.
Je sais pas.
Thomas Dussouchet, voilà. Merci en tout cas Lionel pour votre témoignage. C'est vrai, on peut témoigner uniquement sur France Inter dans le téléphone sonne. Thomas Dussouchet, pharmacien coordinateur de l'association Gaïa, qui gère la salle de consommation de drogue à moindre risque à Paris.
Alors, donc il n'y avait pas de questions, j'ai pas forcément de réponse.
Mais vous, par exemple, à Gaïa et dans cette salle, vous vous occupez de qui? On a beaucoup fantasmé, alors évidemment il y a les riverains à Paris qui râlent contre cette présence, la présence de cette salle, mais voilà, comment ça se passe? Déjà quand on rentre, il y a quoi? On voit des gens qui se droguent partout, comment c'est organisé? Faites-nous entrer dans cette salle de consommation à moindre risque.
Alors ce dispositif, donc c'est une personne qui se présente à l'accueil de la salle de consommation, elle doit présenter son produit, se présenter, donc elle est rentrée dans nos logiciels, présenter son produit, dire comment elle veut le consommer, par inhalation ou par voie injectée. À ce moment-là, on lui remet un ticket, ensuite elle va en salle d'attente, où elle attend son tour pour pouvoir rentrer en salle de consommation. Quand son tour vient, un intervenant, éducateur, médecin, infirmier, assistant social, l'accueille, la fait rentrer, l'invite à se laver les mains, lui donne du matériel propre, lui indique un poste de consommation et la personne va s'asseoir à un poste de consommation avec une certaine confidentialité et la personne a une vingtaine de minutes pour consommer son produit par voie injectée. Après, un intervenant peut refuser l'accès à la salle de consommation à une personne si elle est trop sédatée, qu'elle montre des signes ou si elle veut consommer des opiacés ou au contraire si elle est très agitée et qu'elle veut consommer du crack qui est un psychostimulant.
C'est pas ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à toute les intervenants se réservent le droit de refuser l'accès.
Est-ce que vous avez tiré un premier bilan, parce que c'est ouvert depuis octobre dernier?
Alors on a, ouais, on a des premiers bilans sur le fonctionnement de la salle de consommation.
Le but c'est quoi? C'est de faire arrêter la consommation.
Alors le but c'est de réduire les risques liés à la consommation. C'est-à-dire qu'on parle de, on part de problèmes, d'un diagnostic qui est une consommation dans l'espace public pour des usagers dans des conditions insalubres avec une prévalence de 60% de l'hépatite C. Et les objectifs c'est réduire les risques de transmission de l'hépatite C, du VIH, des maladies bactériennes pour ces personnes et réduire toutes les comorbidités. Mm-hmm. Social, psychologique, somatique chez ces usagers de drogue-là. Et c'est aussi pouvoir faciliter l'accès au traitement de substitution, au traitement de sevrage, mais dans un panel de services qui sont proposés aux personnes.
Bonsoir Benjamin au 01 45 24 7000.
Oui, bonsoir.
Merci.
Tout d'abord, merci de prendre mon appel et puis merci pour la qualité de votre émission. Moi, j'aimerais réagir. Je regrette malheureusement ce soir l'absence d'autorité judiciaire sur le plateau qui aurait pu répondre à certaines de vos questions. Je me permets de vous appeler en tant que policier travaillant affecté à une baguette de stupéfiants depuis quelques années maintenant et donc directement touché par le sujet que vous évoquez ce soir. Et j'aimerais apporter quatre petits bémols, je dirais, à tout ce que je viens d'entendre sur votre antenne.
Alors, allez-y.
Notamment, donc, en ce qui concerne la répression des consommateurs, j'aimerais préciser que maintenant, les consommateurs ne sont plus poursuivis, ils ne sont plus envoyés en prison. Donc, quand on parle de contraventionnalisation des consommateurs, il faut se rassurer. Les consommateurs sont orientés vers des structures de soins, éventuellement, mais ne sont plus poursuivis. Vous imaginez bien comme moi, les prisons étant surchargées, ces consommateurs-là n'ont pas leur place en prison.
D'accord.
C'était le premier petit bémol. La seconde concerne l'escalade de consommation. Votre invité évoquait cette thèse qui ne serait en fait pas qui ne serait irréelle, selon laquelle des consommateurs de drogues douces consommeraient ensuite des drogues dures. Je dois vous dire que depuis quelques années que j'auditionne les consommateurs de drogues dures, notamment d'héroïne et de cocaïne, ils m'ont tous avoué à 99,9% avoir commencé leur consommation de drogue par de la consommation de cannabis. Donc bon, c'est aussi
voilà pour votre deuxième bémol. On va passer au troisième puisque on s'approche des 20 heures.
Ça ira plus vite. La concentration en THC dans le cannabis, je vais vous dire que toutes les drogues qui sont saisies en police sont envoyées vers des laboratoires. On remarque depuis quelques années que la concentration en THC ne fait qu'augmenter dans le cannabis. On atteint des taux maintenant de plus de 36%. Ça parlera, je pense, très bien à vos invités. Et ensuite, dire que pour moi, personnellement, je suis en contact avec des CARUD, donc des centres de réduction de risque chez les usagers de drogue. Je n'hésite pas à faire la publicité de ces centres auprès des usagers que j'auditionne et je les invite à aller se fournir en kit de consommation afin de diminuer les risques provoqués justement par la consommation de drogue. Donc je pense que c'était aussi important de le dire.
Merci Benjamin, donc policier en brigade des stupes, docteur Benyamina.
Alors sur la théorie de l'escalade, je connais bien cet argument et moi je réponds souvent par une pirouette.
Dès qu'il y a escalade de consommation à 99,9% pour lui.
Ouais, toutes les personnes vieilles ont été jeunes, toutes les personnes jeunes ne sont pas assurées d'être vieilles. Donc, c'est ce raisonnement que j'observe à chaque fois quand on parle des consommateurs d'héroïne. Et j'irai encore plus dans le détail, moi j'ai beaucoup de patients héroïnomanes qui n'ont pratiquement jamais vraiment été appétents ou addicts au cannabis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce sont des typologies totalement différentes. Pour autant, il y a des deltas qui respectent ce type d'éléments. Ce qui est un élément péjoratif, je le répète, c'est la précocité, c'est la sensibilisation à la fois environnementale, psychologique et même biologique des jeunes expérimentateurs. Sur la question de la loi, je ne suis pas tout à fait d'accord, alors que c'est évidemment son métier. La loi n'est pas donnée de la même manière, n'est pas rendue de la même manière en France, partout et pour tout le monde. C'est bien ça le problème de cette loi de 70, concernant le cannabis, pour être très précis.
Quand il dit aujourd'hui, on n'en voit plus les consommateurs en prison.
Pour la grande majorité, dans les grandes villes, mais vous allez dans certains endroits où vous avez la police ou bien les forces de l'ordre qui font leur boulot, ils vous disent, moi, dans la loi, c'est ainsi, et ben je l'applique de cette manière.
Ça aussi, c'est remarqué par l'Observatoire
oui, effectivement, des
drogues et toxicomanie.
Il y a encore une petite centaine de condamnations à de la prison par an pour un usage de cannabis. Alors souvent, c'est des profils effectivement de justiciables un peu particuliers qui ont casier judiciaire, qui sont récidivistes, mais malgré tout, ça existe encore aujourd'hui.
Est-ce que tous autour de cette table, vous êtes optimistes pour l'avenir de la lutte contre les drogues? Thomas Dussouchet.
Je pense qu'il va falloir complexifier le débat et ne pas parler de la légalisation et de la drogue et pouvoir parler produit par produit et faire des diagnostics précis des problèmes posés par les différentes situations et les différents produits et partir de ces diagnostics et de ces problématiques pour remonter vers des solutions.
Ivana Obradovic.
Bah, le mot de l'OFDT, c'est qu'il faut regarder les données scientifiques et on a des données assez probantes sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc
Vous avez un site internet qui est très bien fait, le docteur Benyamina.
La question de la drogue en France, c'est une question d'abord globale. La France va être à l'objet d'une pression environnementale puisque la plupart des pays de l'OCDE sont en train de changer le cadre légal. Alors, légaliser, dépénaliser, ce sont des termes fourre-tout qui ne servent à rien. Il faut changer le cadre légal et faire une approche globale dans laquelle on prend un pan et on essaie de le comprendre. Et la loi de 70 doit absolument, absolument être réformée. On est sûr là-dessus qu'elle n'est plus du tout opérante en 2017.
Merci à tous nos invités, merci à tous nos auditeurs qui ont appelé, qui ont écrit et qui ont tweeté. Vous retrouvez évidemment cette émission sur franceinter.fr et en podcast. Dans un instant, Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel, mais tout de suite, il est 20h.